Justement, ça tombe bien que ce soit. J'ai pas trop de temps ce matin parce que je voulais aborder le deuxième personnage et le Seigneur m'a pas permis de le faire et vous savez pourquoi. Parce que c'est très important. Je suis en train de vous commenter un petit peu ce livre qui m'a beaucoup touché, qui sont Les Idoles du Cœur, par Timothy Keller, c'est un pasteur Westminster, mais c'est à New York. Voilà. Et il va plus loin que ce que j'ai fait à une époque et j'ai vraiment été édifié. Parce que le plus grand problème de l'Église, c'est l'idolâtrie, comme cela a toujours été pour les Hébreux et là, pour les Juifs et pour l'Église maintenant. Et ça me permet moi aussi d'approfondir pour moi-même cette chose et je veux vous en faire part pour que nous devenions des hommes et des femmes qui soient des adorateurs en esprit, en vérité. Amen. Libérés des idoles. Donc il faut chercher un peu plus loin la racine des idoles parce qu'elles sont très très profondes. C'est Abraham que nous avons vu dans le premier personnage, le deuxième ce sera Léa. Donc on a vu que Abraham avait deux appels, un premier appel qui lui a été donc le premier appel d'Abraham qui lui a été fait. Excusez-moi, c'est peut-être pas très lisible dans le fond, mais voilà, premier appel qui a été fait à Ur en Chaldée. Ur en Chaldée, là où il était, dans son pays, il a dit quitte ton pays, quitte ton pays. Donc, vous voyez, une action qu'il devait faire pour quitter. Va dans le pays que je te montrerai. Il savait pas lequel, mais il fallait qu'il le découvre. Et tu seras le père d'une multitude de nations. Ensuite, il a eu un deuxième appel. Ok, le deuxième appel. Donc vous trouverez ça dans Genèse. Hein. Le deuxième appel qui est « Quitte ton fils. » Quitte ton fils, hein, Isaac. Celui que je t'ai donné. Non pas le premier que toi tu as fait, mais le deuxième qui t'a été promis, Isaac, son fils. Et ça, c'était le deuxième appel. Et la leçon de ça, c'est que Isaac a commencé... Abraham, pardon, a commencé à faire d'Isaac une idole, hein, mais sans le savoir. Et comme je vous le disais, notre cœur est une fabrique d'idoles à grande échelle. Dites-le, notre cœur est une fabrique d'idoles à grande échelle. Ça, c'est une vérité. Hein, je peux vous le garantir. Quand j'ai lu ça dans ce livre, j'ai dit, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et vous voyez, une fabrique d'idoles, je veux dire, ça nous dépasse. Hein. C'est quelque chose. Et vous, quelqu'un a appuyé sur le bouton de la fabrique et ça n'arrête plus. Voilà. Bon. Donc, il faut se méfier de ce qui sort au bout de la chaîne, hein, de cette fabrique d'idoles. Et savoir que souvent, et la plupart du temps, c'est des choses bien qui deviennent une idole. Donc, souvent, on se méfie des choses mal. Vous voyez, on voit facilement les idoles dans l'Église catholique. Hein, ça, tous les évangéliques en parlent. Même dans les assemblées de Dieu, les pasteurs sont obligés de se payer ça pendant je ne sais pas combien de temps pour bien se méfier de ça. Mais vous voyez, ça, c'est facile hein, de pointer les idoles qui sont à l'extérieur. Luther aussi, il l'a fait. Hein, bon, donné, ils ont cassé les statues. Mais vous savez, c'est pas les statues que vous pouvez casser. C'est les démons qui sont derrière et ceux-là, ils restent. Et souvent, ils sont dans les églises parce qu'ils ont des droits. Donc, c'est plus des droits qu'il faut couper plutôt que les statues. Mais bon, ça, c'est extérieur. Mais le plus dur, c'est les idoles qui sont au fond du cœur. C'est ce qu'on appelle du deuxième, du troisième ou du quatrième degré. Voyez, parce que les idoles, ça va chercher la racine très loin. Et là, Isaac était le fils de la promesse. Abraham a beaucoup souffert pour l'avoir. Pendant des années. Déjà, il ne comprenait pas qu'il puisse en avoir à l'âge où il avait, hein, 99 ans, 100 ans, avoir un fils. Ensuite, après, quand il l'a eu, ça a été beaucoup d'attentes, qui d'ailleurs l'ont fait tellement impatienter qu'il en a fait un avant que le vrai arrive. Voilà. Et on sait que tous les gens qui attendent comme ça, ça provoque une attente encore plus grande. Et quand ça vient, waouh! Oui, une sorte de soulagement. Et c'est ça, la fabrique d'idoles, c'est qu'en fait, c'est inconscient. C'est en dehors de nous. Et Abraham a commencé à faire inconsciemment de son fils une idole. Et si Dieu voulait accomplir la promesse, vous voyez, Dieu n'est pas limité en aucune manière sur les moyens. Vous êtes d'accord? En aucune manière. Par contre, il est limité par la volonté des hommes. Ça, c'est le plus dur pour Dieu. C'est pour ça que Jésus a appris aux hommes à prier. cette prière d'humilité, que ta volonté soit faite, et que c'est une prière qui est récitée par celui qui prie, pas par Dieu. Okay. Et Jésus nous a montré l'exemple. Il a prié que ta volonté soit faite. Rappelez-vous à Golgotha. Et ça, c'est le plus dur pour le chrétien. C'est de soumettre sa volonté à celle de Dieu. Et quand on a une idole, eh bien, on peut faire cette prière, mais on peut ne pas se soumettre, puisqu'on passe par l'idole, et on veut quand même ce qu'on veut. Et ça, c'est ce qui attendait Abraham. Et lui, pour être le père des croyants, le père d'une multitude de nations, le père, c'est-à-dire celui qui engendre la foi, Dieu ne pouvait pas lui laisser cette idole. Ce qui est dramatique pour moi, c'est quand un chrétien a une idole et que Dieu lui laisse. Alors là, je dis, Seigneur, franchement, il est mal ce chrétien-là, vous voyez. Il est mal ce chrétien. Moi, je préfère subir une épreuve très très dure, très très dure dans ma vie. Moi, je l'ai subi, donc je sais ce que c'est, très très dur, mais que Dieu arrache l'idole. Je préfère ça. C'est vrai que vous souffrez, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai. Mais votre vie n'est plus la même. Mais si Dieu vous garde l'idole, c'est qu'il a abandonné de travailler avec vous. Saül, à un moment donné, Dieu l'a abandonné. C'est le plus grave qui puisse arriver à un chrétien, que Dieu l'abandonne. Et croyez, mes amis, ça arrive. Plus souvent qu'on ne pense. Donc, n'ayez pas peur de l'épreuve. Dieu éprouve votre foi. Dieu éprouve la foi. Dieu a voulu éprouver la foi d'Abraham pour voir s'il tenait plus à son fils qu'à Dieu. C'est ça la leçon d'Isaac. Et voyez là, on rentre dans l'alliance. Et le problème de l'alliance, c'est que Dieu est capable de tenir l'alliance avec Abraham. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, qui est-ce qui a scellé l'alliance? Qui est-ce qui a scellé l'alliance? C'est Abraham ou c'est Dieu? Et comment est-ce qu'il l'a scellé? Comment est-ce qu'il l'a scellé l'alliance? Comment il a mis son sceau sur l'alliance d'Abraham? Tu seras père de multitude des nations, etc. Comment il l'a fait? Il l'a endormi. Il l'a endormi parce qu'il savait qu'Abraham ne pourrait pas la tenir. Ça, c'est la grâce. Il a mis dans un profond sommeil Abraham et il a endormi parce qu'il savait que si Abraham prononçait l'alliance, il faillirait dans la réalité parce que l'homme est faillible. Ça, c'est la grâce. Il a endormi, dit l'Écriture, Abraham, et c'est Dieu qui est passé au travers des animaux par le feu. Ça, c'est la grâce, mes amis. Cherchez la grâce dans le Nouveau Testament, elle existe dans l'Ancien. Ça, c'est la grâce. Et il a conclu cette alliance qui veut dire, si toi tu es infidèle, moi je suis fidèle. C'est pas la grâce, ça? Vous avez conclu une alliance avec le Seigneur au moment du baptême, mais sachant que vous êtes dans la grâce. Même si vous êtes infidèle, Dieu est fidèle. Bon, peut-être que vous allez sur un chemin égaré, ça va être dur, mais sachez que Dieu est fidèle. Et si vous comptez sur sa grâce, mais ne perdurez pas, pour pas qu'il vous abandonne. Alors l'alliance... La première alliance qui a été faite, c'est quoi? Genèse 2, 24. Qui est-ce qui peut me citer l'alliance du mariage? Oui, on était beaucoup dans la rue pour le mariage, pour s'opposer au mariage gay. Mais est-ce que nous connaissons le mariage biblique? Alors, Genèse 2, 24, qu'est-ce qui me le cite? Ok, quels sont les trois verbes qui sont utilisés? Parce que le verbe, c'est signifie l'action. Un, deux, trois. Première. Quitter. S'attacher. Non. Devenir. C'est pas pareil qu'être. Devenir, c'est le futur. Ça, c'est l'alliance. Hello? Ça, c'est l'alliance. Et toutes les alliances, qu'elles soient entre le mariage, que ce soit avec Dieu, c'est pareil. Quitter les anciennes solidarités, quitter les anciens schémas, quitter tout ça, et quitter, vous voyez, nous on fait pas mal de préparation au mariage, en ce moment on prépare Hans et Caroline, oui, qui est une Italienne, superbe, et franchement, ils en veulent tellement qu'ils ont dit, bon, on va se marier le 13 juillet, vous venez, tout ça, mais après on veut continuer, on veut jusqu'où, super. Et on leur apprend ça. On laisse passe beaucoup de temps sur quitter, beaucoup sur quitter. Parce que quand on quitte pas correctement, on peut pas s'attacher. On peut pas. C'est quitter la culture, quitter les habitudes, quitter les modes qu'on a acquis, quitter toutes sortes de choses. C'est incroyable ce qu'on peut fouiller dans le terme quitter. Mais je peux vous assurer, quand on quitte pas correctement, on peut pas s'attacher. C'est tout, correctement. C'est une vérité. L'alliance, quand on quitte pas les idoles, on peut pas s'attacher à Dieu. C'est tout. C'est comme ça. Voyez-vous, c'est l'alliance. C'est Dieu qui a fait les alliances. C'est pas nous. Ça vient de l'ingénierie de Dieu. Rentrons dans les choses de Dieu. Quitter correctement, complètement, directement, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'ai bénéficié d'une conversion extraordinaire. Je vais pas vous raconter ma conversion, tellement forte que je savais que malgré tout le bienfait de la culture de ma famille, je devais la quitter. Je devais la quitter. Bon, parce qu'ils ont manifesté assez hostilement ma conversion. Et j'ai dû tellement quitter qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, c'est terminé, on ne se parle plus, on ne se fréquente plus, c'est fini. Tant que vous n'aurez pas compris que moi, c'est le Seigneur, c'est tout, bien, on attendra jusqu'à ce que vous compreniez. C'est tout, terminé. J'ai fait ce pas. Ma sœur n'a jamais pu le faire. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit, mais non, j'ai vu que tu as trop souffert. Trop souffert, je ne pouvais pas faire ce que tu as fait. Bon, elle a subi après les conséquences, divorce et tout ça. Bon, maintenant, elle revient et puis on a de bonnes relations. Mais elle a dit non, c'était pas possible. Tu as trop souffert, c'était un exemple trop dur pour moi. Mais c'est ça qui m'a sauvé. Et mes parents sont devenus encore des meilleurs parents qu'avant parce qu'on a relationné sur le plan spirituel après ça. Bon, ça a duré 20 ans. Mais c'est revenu. Quitter pour s'attacher. Quand on a des idoles dans le cœur, on ne peut pas s'attacher correctement. On s'attache, oui, mais première tentation, c'est fini. L'idole qui est là, paf, est rejaillie. Et c'est tout, vous voyez ? Et ensuite, devenir, eh bien, c'est le résultat. Et c'est ce que Dieu veut dans le mariage, mais c'est ce que Dieu veut aussi dans notre vie personnelle. Quitter les idoles, quitter nos racines, etc. Il y a une question que quelqu'un m'a posée qui m'a fait réfléchir et je voudrais terminer là-dessus pour revenir sur cette idolâtrie d'Isaac. Parce que j'ai fait une affirmation un peu péremptoire en disant Abraham comprenait très très bien ce qu'il faisait. Hein, alors que Kierkegaard, qui a fait tout un livre là-dessus, parce qu'il était impressionné par cet acte fondateur d'Isaac. Il a dit non, la foi c'est quelque chose d'aveugle, on comprend pas, mais il faut le faire. Voilà, bon, ça c'est un peu la thèse de son livre. Et je disais que non, Abraham a très très bien compris. Alors pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi il a compris ce que Dieu lui demandait? Dieu lui a dit, va, deuxième appel, va, prends ton fils que tu aimes. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est une idolâtrie, parce que Dieu lui a dit que tu aimes, et plus que moi, que tu aimes. Va, prends ton fils que tu aimes et offre-le en sacrifice. Sacrifice, c'est l'adoration. Adore-moi, voilà. Donc en quelque sorte, c'était ça. C'était un choix qu'il avait de continuer sur sa lancée, ou s'il veut devenir père, eh bien, il fallait qu'il quitte. Eh bien, c'est... Quand il a reçu cet appel, eh bien, il savait... très très bien ce qu'il faisait, c'est-à-dire il a dit sacrifie ton fils, ton unique, ton premier-né, selon la promesse, pas selon la chair, puisque c'est pas Dieu qui voulait ce fils-là, qui d'ailleurs pose des problèmes jusqu'à maintenant, Ismaël. Voilà, donc sacrifie ton fils, ce premier-né. Il savait pourquoi. Enfin, il savait que c'était. Si il n'aurait pas compris, si Dieu lui a dit, tu prends ton fils, tu vas dans la tente et tu le tues. Alors là, il n'aurait pas compris. Il n'aurait pas le compris non plus s'il a dit, tu vois ta femme, bah, tu la prends, tu la tues. Là, il n'aurait pas compris. Il a dit, là, ce Dieu-là, je ne connais pas. Voyez. Mais quand il lui a dit, prends ton fils, ton unique, et offre-le en sacrifice, il a compris tout de suite. Pourquoi? Petite question qui en est une grande. Eh bien, tout simplement. C'est qu'on n'est pas au XXIe siècle. Okay, XXIe siècle, on ne comprend rien de tout ça. Parce qu'on s'est tellement éloigné de la compréhension de la divinité. Bon, parce qu'on a rejeté les idoles catholiques et tout ça, donc on ne veut plus rentrer là-dedans. Mais du coup, on jette le bébé avec l'eau du bain et tout ça, et on ne comprend pas non plus Dieu. Et la Bible encore moins, parce que surtout pas la Bible. Mais à l'époque d'Abraham, j'ai fait des études assez poussées là-dessus, à l'époque d'Abraham, même avant, toutes les cultures, toutes, et vous les trouvez dans l'archéologie actuellement, toutes les cultures savaient que les dieux, les divinités, donc ce qui est au-dessus de vous, hein, auquel tout le monde croyait, d'ailleurs même Voltaire et tout ça, hein, ils croyaient en Dieu, hein, simplement ils rejetaient le cléricalisme, ça c'est autre chose. Donc jusqu'au 17e, 18e siècle, tous ceux qui prônaient les Lumières, ils croyaient tous en Dieu. Hein, c'est juste au 20e siècle que c'est arrivé avec les philosophes comme... Oui, Nietzsche, voilà, et puis le dernier là avec Simone de Beauvoir et Sartre et tout ça, l'existentialisme. Voilà. Donc c'est assez récent. Avant, on croyait en Dieu, mais on rejetait la religion. Bon, je suis d'accord avec ça. Mais donc, à l'époque d'Abraham, tout le monde croyait en Dieu. Il connaissait pas le Dieu d'Abraham, parce que Dieu était en train de se révéler au début de l'humanité, mais ils croyaient tous en Dieu. Et tous les dieux demandaient les premiers-nés. C'est tout. Tous les dieux, toutes les divinités, toutes les religions, tout ça, tout, demandez les prémices, que ce soit des prémices des récoltes, les prémices des animaux, les prémices des dieux. La différence de Dieu, d'Abraham, c'est qu'il refusait de sacrifier les humains. Tous les autres dieux les acceptent, sauf Dieu, mais les premiers-nés, tout le monde savait que c'était ce que voulait la divinité. Voyez-vous ? Alors, vous me suivez là ? Faites des recherches, vous allez voir, c'est évident. Le problème, c'est que les divinités païennes, elles continuent à réclamer les sacrifices humains. Et même nos leaders, et je suis sûr de ce que je dis, François Mitterrand en personne, il assistait à des sacrifices humains. Donc, juste pour comprendre que toutes les personnes à l'époque savaient que les prémices, c'était ce que voulaient les dieux. Ok. Donc, c'était pas étonnant. Et pourquoi c'était Dieu ? Simplement parce qu'il savait que la vie venait de Dieu. La vie, que la semence et tout ça, c'était Dieu qui le donnait. Et quand il le donnait, eh bien, le premier fruit que vous avez, le premier fruit, eh bien, ça venait de Dieu. Donc, c'était simplement une offrande qu'on donnait à Dieu qui a donné la vie. On reconnaissait la vie. Voyez-vous ? J'ai fait des études de l'idolâtrie, savoir où ça a commencé. Eh bien, ça a commencé tout de suite quand Adam et Ève ont été sortis du jardin. Rappelez-vous, Dieu les a envoyés à l'extérieur du jardin, il a mis des chérubins, il a mis une flamme de feu, il a empêché de manger de l'arbre de vie. Vous vous rappelez ça ? Je n'ai pas le temps de prendre les textes, mais prenez Genèse 3.1. Ça commence à Genèse 3.1. Là, c'est la chute et ensuite l'histoire de la rédemption. Eh bien, à ce moment-là, ils n'avaient plus la bénédiction de Dieu. Ils n'avaient plus la présence du Saint-Esprit avec eux. Ils ne la voulaient plus, puisqu'ils ont dit non, on préfère croire Lucifer, cet ange de lumière qui nous dit des choses formidables, extraordinaires et tout ça, on croit lui, plutôt que Dieu. Donc il a dit, je ne m'impose pas, hein. Bon, je vous laisse, allez-y. Mais attends, si vous avez décidé maintenant, vous allez consommer la connaissance, consommer le savoir, consommer la connaissance. Donc ils ont consommé, et le premier acte que Adam a posé, c'est un acte d'idolâtrie. Et c'est lequel ? Le premier acte, au moment où ils sont sortis du jardin, le jardin était là, ils ne pouvaient plus rentrer et manger l'arbre de vie, ils ont mangé l'arbre de connaissance. Quel est le premier acte que Adam a posé et qui est l'idolâtrie, qui emmène toute l'idolâtrie avec lui derrière ? Non, ça c'est parce que Dieu les a protégés, effectivement, la notion de sacrifice. Non, Adam a posé un acte fondateur de l'idolâtrie, qui est l'idolâtrie la plus importante qui existe encore aujourd'hui, la plus importante de toute l'humanité. C'est quand il a nommé sa femme Ève. Ève. Haya, en hébreu. Ça veut dire vie. Comment Dieu a appelé l'homme et la femme ? Ish et Isha. Ish et Isha, juste un A. Ça veut dire que c'était des vis-à-vis. Des vis-à-vis. C'est-à-dire qu'ils n'étaient humains qu'ensemble. Ils reflétaient Dieu dans la mesure où ils étaient ensemble parce qu'ils étaient complémentaires. Vous voyez, cette notion de complémentarité existait dans le jardin d'Éden. Et quand il a nommé Ève. Ève, ça veut dire la mère de tous les vivants. Tous les vivants. Aujourd'hui, toute l'idolâtrie est basée sur la mère de tous les vivants. La mère du ciel, la mère terre, Déméter, la mère Cérès, la mère Cybèle, la mère Isis, la mère machin, etc. La mère nature, la mère terre. Nouvel âge du Verseau, c'est la mère nature, voilà, c'est ça. Regardez, cherchez, cherchez. Vous allez découvrir la même chose que moi. Donc voyez-vous, l'acte fondateur, c'est de dire, voilà, j'ai ma femme à côté de moi, elle est la mère de tous les vivants, on n'a plus besoin de Dieu, forcément il n'a plus accès à Dieu parce qu'il a renié Dieu. Donc en fait, il établit sa femme comme la mère de tous les vivants. Adorez-la. Adorez-la, c'est elle la mère. J'ai pas le temps ce matin. Je vous l'ai dit, j'ai pas le temps. Mais pour ceux qui veulent savoir un peu plus, je peux faire des études là-dessus. Vous voyez la généalogie de toute cette adoration d'Ève. Et aujourd'hui encore, l'adoration la plus importante, c'est Ève, parce que celle qui représente ça, c'est Vénus. C'est l'étoile du matin qui prend la place de Jésus qui doit être l'étoile du matin. Parce que Vénus est toujours celle qui se lève le plus à l'aurore et qui se couche le plus tard, et qui pendant toute la journée du ciel, vous pouvez voir Vénus, voyez. Vous voyez où ça va se chercher, l'astrologie, tout ça derrière. Donc, soyons conscients que déjà le fait de vouloir une indépendance, quelque part, ça nous mène dans l'idolâtrie. Puisque on déclare au départ, on n'a pas besoin de Dieu. On peut faire les enfants tout seul. Et qu'est-ce qu'il a fait comme premier enfant? Comment il s'appelle le premier enfant? Cain. Ça veut dire quoi, Cain? Vous savez, les noms ont une importance. Ève, elle n'a pas choisi les noms pour rien. Qu'est-ce qu'elle a choisi comme nom? Qu'est-ce que ça veut dire, Cain? Ça veut dire, j'ai acquis. J'ai acquis un fils. Allô? Qu'est-ce qu'il est devenu, Cain? Il a tué son frère. Comment il s'appelait, son frère? Ça veut dire quoi, Abel? Ça veut dire quoi, Abel? Tous les noms ont une signification, parce que à l'époque, ils ne les choisissaient pas comme maintenant, ils prennent le dictionnaire. Ils n'avaient pas de dictionnaire à l'époque de noms, de prénoms. Donc, ils choisissaient des noms qui avaient une importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas d'idée? Regardez dans Genèse. Voilà, Genèse 3. Elle accoucha encore de son frère Abel, et Abel devint berger du petit bétail et Caïn cultivateur. Bah, tenez-vous bien à votre siège, c'est Ève qui a donné ce prénom, bah, avec l'accord d'Adam, soyez sûr. Donc il est aussi complice. Ça veut dire vanité. Vous rendez compte? Appeler son fils vanité. C'est pas le hasard, hein? Vanité. Vaut rien, tu ne vaux rien. Voyez un peu la malédiction qui est projetée sur le fils, le deuxième, et le premier qui se régale. Hein, moi, j'ai acquis par ma mère, et lui, il vaut rien. Vous savez ce que ça veut dire, vaut rien? Ça veut dire fils de Bélial, fils de Satan. Je peux vous dire qu'une mère évangélique, qui était sœur de Plymouth, c'est-à-dire ceux qui ont fondé l'Amérique, un jour, elle a appelé son fils, parce qu'il était insupportable, et il dit, tu es la bête. Il est devenu la bête de l'Apocalypse, à tel point que c'est le personnage le plus horrible qui existait, qui a écrit la Bible de Satan. Simplement parce qu'une mère évangélique a dit « Tu es la bête !» Et lui, il a pris ce nom et il est devenu la bête. Faisons très attention à la manière de nous comportons avec nos enfants. Voyez, parce que l'autorité, la parole d'autorité est très importante. Abel est mort, qu'est-ce qui lui a succédé? C'est Seth. S-E-T-H. Seth, c'est le premier adorateur sur la terre qui a commencé une ligne d'adoration. Ensuite, après, vous retrouvez la même chose avec Noé, Sem, Cam et Japheth. Bon, je ne vais pas faire Nimrod, Sémiramis et compagnie. Et c'est toute l'adoration d'Ève. C'est-à-dire, tous, ils remontent à l'adoration d'Ève. Ils adorent Ève, Vénus, la mère, nature. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans le Nouvel Âge avec cette adoration. Voyez-vous où mène le péché? Où mène l'indépendance de Dieu. Ça se trouve dans les petites choses de la vie, dans la façon dont on se comporte. Parce qu'on pense faire des choses sans Dieu. Demandez tout ce que vous faites à Dieu. Demandez-lui sa grâce, demandez-lui son aide, mais ne faites rien en dehors, sous prétexte que vous avez le savoir. Non, on n'a aucun savoir. On a le savoir de la connaissance du bien et du mal, mais pas le savoir de la vie, c'est Jésus. Donc cherchons la connaissance dans Jésus pour faire les choses, parce que nous sommes faillibles et nous tombons dans l'idolâtrie. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'était évident pour lui qu'il avait une dette au départ envers Dieu et que cette dette, c'était le Fils. Le problème qu'il n'a pas compris, alors il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, ah ben, c'est sûr, c'est pourquoi Dieu lui demande son Fils et qu'en même temps, il lui dit que ce sera au travers de ce Fils qu'il sera père d'une multitude de nations. C'est ça qu'il n'a pas compris. Le pourquoi, il lui demande, il a compris, mais pas le comment. Mais très souvent aussi, nous, on comprend pourquoi Dieu nous demande l'adoration, mais parfois on ne comprend pas comment Dieu peut nous demander telle ou telle chose, c'est-à-dire la manière dont il nous fait passer quelque part. Mais mes amis, je vais vous dire une chose, ce n'est pas à nous de savoir le comment, on n'est pas Dieu. Laissons Dieu faire dans le comment. Et c'est là qu'il nous met à l'épreuve. Comment, Seigneur, peux-tu faire que tu me demandes mon fils et qu'en même temps tu vas me le redonner comme par une résurrection? Prenez Hébreux 22, il croyait ça, vous voyez, il croyait déjà à la résurrection de son fils. Donc il anticipait ce que Jésus allait faire, c'est formidable. Vous voyez, ce que Dieu peut faire dans un cœur d'un croyant, un cœur d'un homme qui a la foi, le père des croyants. Il croyait, Hébreux 12, prenez-le, il croyait que de toute façon, il ne comprenait pas comment Dieu allait faire, mais vous savez, le problème du comment ne doit pas nous préoccuper. Comment est-ce que Dieu va me donner de l'argent pour faire ça? Osborne, qui était un homme de foi, entre autres, mais tous les hommes de foi, lisez les hommes de foi. Dieu lui a dit, demain, tu dois aller à Singapour, je ne sais plus où, voilà. Billet d'avion, 5000 dollars. Il n'avait rien, pas un sou. Avec sa femme, ils ont prié à genoux, ils sont dormis. Lendemain matin, ils regardent, il y a des billets de dollars. Ils ont tout compté, le vent les avait amenés. Ils ont compté, il manquait un dollar, ils l'ont trouvé derrière la plainte. Et ils avaient l'argent pour aller chercher, voilà. Et quand on a la foi, on ne cherche pas le comment. C'est pas notre problème, le comment. Dieu a des ressources illimitées du comment. Hello? Vous dites Amen? Amen! Illimité! Simplement, faites confiance. Vous voyez? Le pourquoi, on peut le comprendre. Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? C'est forcé, tu veux m'arracher l'idole. Ok, Seigneur, je te la donne. Soyez souple entre les mains du Seigneur. Acceptez qu'il prenne votre idole parce que vous aurez plus que l'idole, vous aurez Dieu lui-même. Le comment, si vous ne le comprenez pas, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Tu lui fais confiance, Maggie? Voilà. Bonne réponse. Je le veux. Le comment, laissez-le à Dieu. Et c'est là qu'on voit si on est chrétien ou pas. D'ailleurs, je ne comprends pas le comment, mais je te fais confiance. Et comme si tu dois faire une résurrection, tu la feras, Seigneur. Amen. Et c'est comme ça qu'on saisit les victoires. Alléluia. Elsa, c'est comme ça que... comment il s'appelle, fondateur de Kingdom Faith, Colin Urquhart, a fait pour son cancer. Et c'est comme ça qu'il a fait. Et moi, je le sais parce que j'ai appelé à ce moment-là chez lui et ça répondait pas. La secrétaire me répondait, ah, je comprenais pas. Et j'ai appris après qu'il a dit à la secrétaire, tu ne diras rien à tous ceux qui appellent, sauf à mes partenaires de prière. Tu leur diras rien. Parce que les médecins m'ont dit que j'ai le cancer. Il n'a pas dit qu'il n'a pas le cancer. Il a dit, vous, médecin, vous dites que j'ai le cancer. Le médecin que vous me pronostiquez, eh bien, je guérirai. Et il a tout fait par la foi pour acquérir ce guérison. Et il l'a eu. Amen. Voilà. En plus, il priait pour ce... Voilà. Il a appliqué la parole de Dieu. Et ça, c'est les hommes de foi. Comment il va me guérir? Peu importe. Si c'est pas la chirurgie, pas n'importe quoi. Il s'est soumis au traitement, attention. Il n'est pas allé dans la foi mystique en disant oh, je reste dans mon bunker. Non, je crois qu'il a fait de la chimie. Enfin, je sais pas. Bref, il a guéri. Aujourd'hui, il a le ministère qui continue. Des hommes et des femmes de foi, comme Abraham, ils disent ok, Seigneur, je comprends que tu me demandes ça comme sacrifice parce que c'est normal. Tu es Dieu et ça te revient. Tu m'as donné la vie, je te redonne la vie, etc. Et je sais que pour les femmes, c'est très difficile de donner leur enfant parce qu'elles l'ont porté. Mais Ève ne l'a pas fait et l'a produit des criminels. Elle a produit le crime dans l'humanité par Cain. Elle a dit, j'ai acquis. Et l'autre, c'est de la vanité, c'est un faux rien. Qu'est-ce qui s'est passé? le péché a engendré le crime. Pas beau, hein ? C'est ça le péché. C'est ça l'idole. Donc, ne soyons pas de cela, soyons de ceux comme Abraham qui a fondé une nouvelle race qui est arrivée à maturité en Jésus-Christ. Amen. Juste pour terminer, je vous ai cité une voisine qu'on a connue quand on est arrivé au Coudray, là où on habite. Et cette voisine était très amie avec ma femme. Elle avait deux garçons. Elle misait tout sur ses garçons. À peine ils étaient nés, ils devaient déjà faire polytechnique, ils devaient déjà être manager et tout ça. Enfin, voilà, le meilleur du monde. Et ben, ça s'est terminé en catastrophe. Au bout d'un certain temps, son mari ne l'a plus supporté, ils ont divorcé. Ses enfants n'ont pas du tout fait aucune grande école, rien du tout. Bon, ils vivent bien, mais ils n'ont pas supporté la pression que la mère le mettait sur eux. Elle les mettait comme un piédestal, comme un être divin qui doit arriver à ça. Ils ne pouvaient pas supporter, ils voulaient vivre leur vie. Ok ? Eh bien, c'est parce que l'idole produit des pressions insupportables sur les gens, c'est du contrôle et c'est de la manipulation. En Dieu, nous sommes libres de devenir ce que lui a prévu pour nous. Amen. Si lui veut que je sois médecin, je serai médecin. Si lui veut que je sois infirmier, je serai infirmier. Si lui veut que je sois pasteur, je serai pasteur. Vous voyez, c'est son appel et pas l'appel de la mère. La pression sur les enfants, ou du père, ou etc. Enfin, peu importe, je prends juste cet exemple parce que je le connais. Hello ? Voilà. Donc, pour résumer, Abraham savait, comprenait pourquoi le premier-né devait être donné à Dieu, mais il ne comprenait pas le comment, mais il a fait confiance à tel point qu'il s'est dit, toutes les ressources appartiennent à Dieu, même s'il faut une résurrection, il le fera. Hello ? Et pourquoi ? Un autre pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu est intervenu au dernier moment? Il aurait pu intervenir pendant qu'il montait sur la montagne. Il a vu le cœur. Il connaît le cœur. Est-ce que Dieu connaît le cœur? Est-ce qu'il connaissait le cœur d'Abraham? Est-ce qu'il savait que Abraham allait aller jusqu'au bout? Oui. Tout ça, il le savait. Et pourquoi n'est-il pas intervenu avant là? Juste la dernière seconde. Pourquoi? Voilà. Voilà, c'est la psychologue qui parle. Écoutez-la bien, elle a raison. C'est parce que sur un banc de chaise comme ça, et moi j'étais aussi comme vous sur un banc de chaise, on ne peut pas comprendre comment on enlève une idole quand on n'a pas passé par là. Vous voyez ? Dieu voulait faire grâce à Abraham de passer par là, de l'expérimenter jusqu'au bout. C'est pas Dieu qui avait besoin de l'expérience, c'est d'Abraham. Okay. Parce qu'Abraham n'aurait pas pu enlever les autres idoles après qui sont venues, et il n'était pas devenu idolâtre, alors que Salomon l'est devenu. Hein. Tous les rois d'Israël sont devenus idolâtres, hein, pratiquement. Abraham ne l'est pas devenu, il était père des croyants, parce que là, Dieu lui a fait grâce pour lui montrer que tant qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ses actions, de ses actes, pour renoncer à son fils jusqu'au bout, il ne pourra pas tenir son rôle de père des croyants. Vous comprenez ? Voilà. Et tant que nous, Dieu ne nous fait pas la grâce d'extirper l'idole jusqu'au bout, eh bien, il y a des racines qui restent, vous savez, comme les mauvaises herbes, vous les arrachez et ça repousse. Ben, c'est pareil avec les idoles. Ça repousse, ça repousse, ça repousse, et vous arrachez tout le temps, et des fois vous n'y arrivez plus, vous en avez marre, et vous le laissez pousser, et puis bon, l'idole, elle est belle, vous lui donnez un chapeau, voilà, parce que vous n'arrivez plus à vous en débarrasser, bien vous l'anoblissez, vous le dites que, ah, elle est jolie, mon idole, voilà. Vous voyez ? Non. Acceptez que Dieu arrache l'idole, même si ça fait mal, jusqu'au bout, parce que là, vous aurez appris quelque chose comme Abraham. Amen. Amen. C'est ça l'épreuve. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu met à l'épreuve notre foi. C'est ça que ça veut dire. Il met notre foi à l'épreuve, pour qu'elle devienne plus belle, comme de l'or pur. Si vous voulez faire de l'or, il faut chauffer, jusqu'à ce que le dessus devienne un miroir et que vous puissiez écumer et que l'or qui reste est pur. Mais si vous arrêtez avant, et je sais que Jean-Paul Anglais un jour m'a dit, voilà, telle et telle personne, Dieu l'a amené à la repentance, et les chrétiens, bêtement, ont arrêté le processus, et c'était dramatique. Voyez-vous, n'arrêtons pas le processus de repentance, n'arrêtons pas le processus de quoi que ce soit. Nous aussi, on a fait ça. Hein. Michel, un jour, il y a une femme de pasteur qui est tombée dans les bras en disant « Je me repens ». Il a dit « Mais non, ma sœur, parce qu'elle était superbe. Ben, » C'était une femme horrible, on l'a su après. Là, elle a péché devant Dieu. Il aurait dû lui dire « Oui, l'amener à la repentance au pied de la croix. » Mais vous savez, nous, souvent, on regarde l'apparence. « Ah, ben, c'est une femme super, machin, etc. » Bah plus tard, on l'a entendu qu'elle faisait tout pour détruire le ministère de son mari. C'est beau, hein. Et puis elle faisait de l'occultisme. Et tout. Ne perdez pas une occasion de d'aider quelqu'un à aller dans la repentance et de rester dans la repentance. Parce que la tristesse, selon Dieu, conduit au salut. Et la tristesse, selon le monde, conduit à la perdition. Attention, le monde fonctionne à l'envers de Dieu. Il faut que nous fassions très attention de nous appuyer sur la sagesse du monde. La sagesse de Dieu, c'est ce qui est faible. Dieu choisit ce qui est faible pour confondre les fortes. Dieu choisit ce qui est misérable. Je ne sais plus le verset maintenant, si on ne revient plus. Voilà. Toutes les choses inverses. Voyez, parce que Dieu, il veut nous mettre à l'épreuve de notre foi. Et c'est la foi qui nous permet d'accéder aux choses réelles de l'esprit. Donc soyez des hommes et des femmes de foi et acceptons, comme Abraham l'a fait, que l'épreuve aille jusqu'au bout pour déraciner ce que Dieu veut déraciner, pour que son processus de bénédiction puisse agir dans nos vies. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Parce que Seigneur, tu es un Dieu, c'est vrai qu'il nous dépasse, mais il ne nous dépasse pas simplement dans la compréhension de ta plénitude, mais aussi dans la compréhension du comment que tu fais les choses. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous aides chacun à notre niveau à accepter les choses que toi tu décides, que nous ne comprenons pas dans le comment. Aide-nous à comprendre la manière que tu nous demandes des choses, que c'est vrai, que tu nous demandes d'adorer, que tu nous demandes toutes ces choses-là, mais du comment que nous le laissions entre tes mains. Et Seigneur, que nous puissions permettre de souffrir s'il le faut pour que tu puisses arracher pendant ce processus toutes les idoles qui sont au fond de nos cœurs pour nous rendre purs comme l'or qui est pur, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes qui dans ce monde pouvons tenir, Seigneur, la route et tenir, Seigneur, vraiment ce témoignage de foi jusqu'au bout. Alors nous te remercions de ce que tu as prévu pour nous, nous te remercions de ce que tu as prévu pour notre vie spirituelle. Nous voulons nous soumettre à toi et te rendons grâce, Père, au nom de Jésus. Amen.